Upload UTC, l'université populaire du libre, ouverte, accessible et décentralisée à l'UTC. Avec les étudiants de WE01, encadrés par Audrey Guélou et Stéphane Crozat.
Bonjour ou rebonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission du cours WE1, écrire sur le web donné à l'UTC par Stéphane Crozat. Pour rappel, en WE1, on apprend des théories relatives aux technologies du numérique, on apprend aussi à se servir d'outils du web, on apprend à se servir aussi d'outils méthodologiques en général et puis on aborde quelques aspects culturels, éthiques et économiques du web en fin du V. Et les étudiantes et les étudiants de WE1 ont réalisé ce semestre un projet qui consiste à mettre en ligne un dossier thématique qui aborde une problématique technologique du web et qui contient donc un article collectif, des fiches de lecture, une interview et puis aussi une intervention à la radio. Alors il y a quelques instants, on était avec 5 étudiants et étudiantes qui nous ont présenté leur travail sur le thème des espaces de discussion en ligne et on continue à présent avec le dernier groupe de ce semestre qui va nous présenter leur exposé sur l'économie et l'écologie de l'attention. Alors je suis donc pour cela avec Daphné Engrand. Bonjour Daphné.
Bonjour.
Je suis aussi avec Anna Schmidtlin. Anna, bonjour.
Bonjour.
Bonjour aussi à Mathilde Fortin.
Bonjour.
Bonjour Billy Théa.
Bonjour.
Et bonjour Paula de Pina Borges.
Bonjour.
Bonjour Paula. Alors, eh bien, c'est la fin de l'après-midi d'une fin de semestre, mais les autres étudiants du TD sont toujours pleinement alertes et concentrés sur Mattermost pour vous poser leurs questions. Et puis, je vous les relayerai au micro de ce studio. Et donc, on démarre sans attendre. Daphné, tu vas nous donner quelques définitions et un petit peu d'histoire autour de l'économie, de l'attention. Tu es prête ?
Oui.
C'est parti, Daphné.
Merci. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter les enjeux de l'économie de l'attention. Mais pour cela, il faut tout d'abord que je vous pose le contexte de notre sujet. En 1971, le chercheur Herbert Simon, futur prix Nobel d'économie, formule le concept suivant. Dans un monde riche en informations, l'abondance d'informations entraîne la pénurie d'une autre ressource. La rareté devient ce que consomme l'information. Ce que l'information consomme est assez évident, c'est l'attention de ses receveurs. Donc une abondance d'informations crée une rareté de l'attention et le besoin de répartir efficacement cette attention parmi la surabondance des sources d'informations qui peuvent la consommer. Bon, en d'autres termes, l'abondance actuelle d'informations mange notre attention. Une information qui veut être vue se noie parmi les autres. Le challenge est donc qu'elle soit vue, qu'elle attire notre attention. Les entreprises font donc tout leur possible pour capter l'attention de l'utilisateur à tel point que notre attention est devenue un véritable marché. Cette attention est donc sans cesse stimulée. Bruno Patino, professeur à Sciences Po et écrivain, compare notre attention à celle des poissons rouges. Il dit dans son livre « La civilisation du poisson rouge » sorti le 10 avril 2019 édition Grasset que les ingénieurs de Google ont réussi à calculer la durée maximale de l'attention des poissons qui est de 8 secondes. Ces mêmes ingénieurs ont évalué la durée d'attention de la génération des millénials, celle qui a grandi avec les écrans connectés, et qui est de 9 secondes. Donc d'après Patino, nous sommes donc devenus des poissons rouges, enfermés dans le bocal de nos écrans, soumis au manège de nos alertes et de nos messages instantanés. Mais comment se passe-t-il, comment se fait-il que de 1971 à maintenant, on en est arrivé là, à cette dépendance, à cette diminution de notre attention ? Nous allons ensemble écouter un extrait de la vidéo YouTube « L'économie de l'attention, le consommement », réalisé par Stupid Economy, posté le 20 juin 2018.
Démarche similaire à celle de Patrick Lelay de TF1, qui un siècle plus tard déclarait que « ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible ». Cette phrase de 2004 est peut-être trop souvent citée, mais elle montre que, avant l'ascension de Google ou de Facebook au rang de champion de l'économie de l'attention, la démarche était la même. Les différences, ce sont les moyens d'action. En 1998, les fondateurs de Google refusent de placer des publicités dans leur moteur de recherche. Leurs concurrents ne partagent pas du tout leur réticence et vont jusqu'à proposer des services où les résultats de recherche étaient pratiquement exclusivement mis aux enchères. Mais de 1998 à 2000, Google, malgré l'efficacité de son moteur de recherche, ne génère quasiment pas d'argent. Ils n'ont pas de modèle économique. Facebook, Baidu, Microsoft, Yahoo, Verizon, Twitter, ces 7 entreprises ont généré 132,8 milliards de revenus publicitaires en 2016, ce qui représente presque les 3/4 du marché de la publicité sur Internet. Au final, plus de 80% des revenus de Google sont publicitaires et c'est 95% pour Facebook. Ce sont clairement des marchands d'attention avant tout.
Nous venons d'entendre donc que Google, avant d'être le premier vendeur de notre attention, souhaitait être neutre. Il ne gagnait rien avec son moteur de recherche. Il gardait en tête l'axe que se voulait Internet lors de sa création. Initialement, l'Internet était considéré comme une noosphère, une utopie, une conscience universelle. Elle devait être la sagesse parfaite, en autorégulation, où devait régner une égalité totale. Cette vision a bien changé puisqu'au quotidien, les géants du numérique essayent d'attirer et de retenir notre attention dans l'optique de nous faire visionner leur publicité. Le sujet de l'économie de l'attention prend de l'importance avec la place toujours plus centrale qu'occupe Internet dans nos vies. On verra donc avec Anna quels sont les mécanismes employés par les géants de la technologie pour construire des addictions auprès de leurs clients. Nous verrons avec Mathilde pourquoi et comment les technologies numériques exploitent l'attention des utilisateurs au profit de leur économie. Avec Billy, nous étudierons ensemble en quoi l'économie de l'attention est néfaste du point de vue de l'écologie mentale, de l'écologie sociale et en particulier chez les enfants. Mais certains concepts sont apparus en réponse à cette manipulation d'attention. Yves Citon parle de l'écologie d'attention pour désigner les moyens à déployer afin de retrouver le contrôle de notre utilisation du numérique et conserver notre pouvoir en tant qu'utilisateur fréquent d'Internet. Ainsi, Paula nous exposera les solutions à mettre en place collectivement pour pallier ce problème. Comment mettre en place une économie d'attention ?
Merci beaucoup Daphné, merci pour cette introduction et cette première partie. Donc tu as étudié en effet l'ouvrage de Bruno Patino. Donc Bruno Patino, tu nous disais qu'il appuyait la thèse selon laquelle l'attention des utilisateurs est devenue une denrée rare et puis à durée limitée, donc 9 secondes, hein, tu nous disais selon son livre La civilisation du poisson rouge. Alors moi quand on parle de poisson rouge, je pense à la mémoire du poisson rouge. Est-ce que Bruno Patino associe dans son ouvrage, est-ce qu'il associe le raccourcissement de notre durée d'attention à une modification de notre mémoire aussi? Est-ce que, alors tu sais, il parle aussi de perte de repères, par exemple, dans son ouvrage. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Est-ce qu'on perd de repères aussi? Est-ce qu'on oublie des choses? On ne se souvient plus? Bref, est-ce qu'il y a un lien entre notre mémoire des choses et puis la modification de notre durée d'attention?
Alors, je ne m'en souviens plus vraiment, mais je pense que oui, il en évoquait effectivement que notre mémoire, actuellement, c'est vrai que je pense, et d'après des études, le montre que la mémoire diminue beaucoup, et notre attention, enfin, il axe vraiment sur l'attention, en fait, tout son livre. Et c'est vrai que je pense que notre mémoire doit diminuer également.
Il n'en parle pas explicitement, il ne fait pas de lien avec la mémoire.
Je ne crois pas, non.
Ok, écoute, c'était une tentative.
Très bien. Très bonne.
Pas de problème, Daphné, ok. Bon, alors écoutez, on va attendre que ça arrive sur Mattermost. En attendant, on va continuer, puisque c'est vrai qu'on est 5, on a un beau programme pour cette intervention. Alors, Anna, tu vas continuer en nous parlant des mécanismes de construction de l'addiction par les géants du numérique. Tu es prête, Anna ?
Oui.
Vas-y, c'est à toi.
Alors, comme l'a expliqué Daphné, l'économie de l'attention implique que les géants de la technologie cherchent à capter et retenir au maximum l'attention de leurs utilisateurs, donc notre attention. C'est à ce moment-là qu'on peut commencer à parler d'addiction aux technologies, qui est le thème que je vais explorer. Pour ce faire, j'ai étudié le livre Irresistible, The Rise of Addictive Technology and the Business of Keeping Us Hooked, sorti en 2017 chez Penguin Books. Et c'est dedans que son auteur Adam Alter identifie 6 ingrédients que ces mêmes géants de la technologie utilisent quand ils conçoivent leurs produits pour créer une addiction chez les gens. Je vais tout d'abord vous faire écouter un court extrait où Adam Alter lui-même parle des addictions grandissantes au numérique et leurs catalyseurs. Il provient de la chaîne YouTube Big Think et date de 2017.
The other thing that I think has happened is that companies are much savvier about this. They're employing behavioral experts to tell them how to design their media, how to design the vehicles that deliver those media, smartphones, iPads, smartwatches, things like that. And for that reason, I think they are delivering products to us that are harder for us to resist. They've got enough features built in that we find to be pretty hard to resist that we end up developing addictions to them. And by some counts, that applies to about half of the population of the developed world. It turns out that it's not the addiction to the device itself, it's that the device is just an incredibly effective way of delivering addictive content. So when you're addicted to a screen, it's not that the screen itself is something that you can't get enough of, it's what it's providing.
Adam Alter mentionne bien ici le fait que les grandes entreprises font appel à des experts du comportement pour développer leurs produits, et que ce qu'ils proposent se base bel et bien sur des études comportementales. Parmi ce qui en ressort, on trouve nos 6 ingrédients pour créer une addiction numérique. Le premier est un but atteignable, mais qui n'est jamais atteint. On peut par exemple penser au fait de lire ses mails. La majorité des gens visent le inbox zéro, souvent sans succès. Les statistiques montrent qu'un email professionnel attend en moyenne 6 secondes avant d'être ouvert, qu'un employé passe en moyenne un quart de sa journée à les trier, et qu'il vérifie sa boîte mail en moyenne 36 fois par heure. Le même principe est attribué à la technologie portable, comme les montres de sport, qui fixent des objectifs et affichent des barres de progression tout au long de la journée, vis-à-vis du nombre de pas à faire ou de marches à monter. En ce qui concerne le second ingrédient, un feedback positif inattendu, on en retrouve un exemple d'application évident dans les mentions « j'aime » qu'on peut attribuer aux posts sur les réseaux sociaux et qui sont parfois comparés à une drogue. Des plateformes ont même été mises en place pour se nourrir et perpétuer ce besoin. En 2014, l'application Lovematically permettait de liker automatiquement toutes les photos du feed Instagram de son utilisateur, ce qui encourageait les gens qui recevaient ces likes à réciproquer la faveur. Le troisième ingrédient, qui est une impression de progrès et d'amélioration constant, est à la base d'un grand nombre de jeux vidéo comme Super Mario Bros, Pokémon, World of Warcraft, etc. On en retrouve souvent dans les jeux vidéo, par exemple de roleplay, un système de récompenses élaboré qui, au début du jeu, permet de recevoir beaucoup de récompenses, collecter des éléments et gagner rapidement des niveaux. C'est ce sentiment de progrès qui attire l'utilisateur et développe son engouement. Ce fonctionnement est également lié à l'ingrédient suivant, donc le quatrième, qui est des tâches qui deviennent de plus en plus difficiles avec le temps. Dans les mêmes jeux vidéo que précédemment, la fréquence des récompenses devient en général progressivement plus faible et les tâches à accomplir gagnent en difficulté. Le joueur, qui est à ce moment-là déjà relativement investi dans son jeu, ne va pas se laisser décourager et va continuer à jouer pour relever le défi proposé. C'est par ailleurs ce genre de montée en difficulté qui permet d'atteindre la zone, un état de concentration dans lequel la personne perd la notion du temps. Le cinquième élément correspond à des tensions qui demandent résolution, ou plus simplement des cliffhangers. Ce mot est très utilisé pour parler de divertissements tels que des films ou séries. Face à un cliffhanger, le suspense, l'appréhension et la curiosité sont souvent les raisons qui poussent un téléspectateur à enchaîner les épisodes. Ce genre de tension est alors précautionneusement élaboré par le fournisseur du divertissement en question. Le dernier ingrédient est tout simplement des interactions sociales. De manière générale, il est courant que les services, des réseaux sociaux aux jeux vidéo, incluent dans leur fonctionnement des moyens de communication entre les différents utilisateurs. Les développeurs de réseaux sociaux jouent également sur un autre aspect des interactions sociales, qui est la façon dont un utilisateur va se comparer aux autres et rechercher davantage d'estime de soi au travers de la plateforme. Un attachement si personnel et fondamental au service lui assure une utilisation régulière. Donc, les entreprises cherchant à concevoir une expérience addictive pour leurs utilisateurs vont chercher à agir sur la base de ces connaissances sur la psychologie humaine et vont designer leurs produits de telle sorte à ce que ces éléments interviennent. On parle bien ici d'un business de l'attention.
Merci Yana, merci pour cette partie. Alors c'est vrai que la liste de ces ingrédients forme une analyse qu'on peut dire très claire des ressorts d'une addiction irrésistible au numérique. Alors est-ce que dans son ouvrage, Adam Alter, est-ce qu'il affirme que ces mécanismes sont effectivement irrésistibles et donc la seule solution pour s'en sortir, ce serait d'interdire aux entreprises qui les utilisent de s'en servir? Ou bien est-ce qu'il propose quand même des moyens de résister lorsque c'est tout de même possible, sans renoncer à nous servir de notre ordinateur, de notre smartphone?
Dans son livre, la dernière partie est axée sur comment se sortir de l'économie de l'attention. J'ai pas fait mon sujet dessus, mais je sais quand même qu'il a donné des solutions plutôt évidentes au final quand on y pense. Et selon lui, pour sortir de l'économie de l'attention, il faut d'abord faire des mesures personnelles où on se dit « je vais poser mon téléphone, je vais mettre des limites de temps », ce qui est un outil qui existe sur les téléphones qu'on a tous normalement. Donc se mettre des limites de temps, par exemple se dire que le soir on va poser son téléphone dans une autre pièce, qu'on va essayer de passer plus de temps avec ses proches, avec ses amis, avec sa famille. Et malheureusement, comme l'économie d'attention est un business déjà établi et qu'on sait en général que les grandes entreprises ne vont pas souvent, du moins d'elles-mêmes, réduire leurs mesures pour créer une addiction, et c'est à nous de faire des choix et de décider de sortir de l'économie d'attention. Donc, Adam Alter parle de ça dans la fin de son livre. Oui.
Ok, c'est très clair. Merci Anna. Alors maintenant, je vais passer la main à Mathilde. Mathilde, pour une troisième partie, tu vas nous expliquer comment les technologies numériques exploitent l'attention des utilisateurs. Tu es prête pour cette partie-là?
Oui.
Allez, go.
Alors, c'est maintenant à moi de vous expliquer pourquoi et comment les technologies numériques exploitent l'attention des utilisateurs au profit de leur économie. Alors, c'est vrai que nous n'avons pas l'habitude de mettre en lien l'attention et le numérique. Et pourtant, les géants du numérique en font un atout pour valoriser leur économie. Et on parle donc, comme Daphné l'a dit, d'économie de l'attention. Alors, brièvement, les plateformes numériques, ce sont des services qui proposent des contenus et qui sont donc des supports d'information de tout type. Alors, vous vous demandez peut-être pourquoi je vous parle des plateformes numériques. Eh bien, tout simplement car c'est par leur biais que l'attention est devenue une ressource économique importante à exploiter pour les géants du numérique. Et l'économie de cette plateforme peut être basée sur différentes méthodes. Par exemple, certaines plateformes proposent des publicités visées, comme Google ou les réseaux sociaux. D'autres encore proposent des services premium avec des avantages sur l'application pour les abonnés. Je pense notamment à Candy Crush ou encore à Spotify, où une fois qu'on est abonné, nous pouvons changer autant de fois que nous voulons la musique, ce qui n'est pas le cas sans abonnement. D'autres, cette fois-ci, proposent un abonnement obligatoirement payant, comme Netflix, Disney+, Amazon Prime, etc. Et d'autres encore proposent tout simplement de la vente directe des prestations de services, comme Amazon, Uber, Deliveroo, etc. Et par le biais de toutes ces méthodes, les plateformes tentent de maximiser notre temps passé sur ces dernières, et on parle donc désormais d'écologie de la manipulation, car comme l'a expliqué Anna juste avant moi, nous devenons finalement quasi addicts de ces applications, au point où nous allons les consulter par simple réflexe. Et plus le temps que nous passons sur ces plateformes est important, et bien plus leur économie, l'économie des géants du numérique, grandit, et pour cause, les algorithmes récoltent nos données sans cesse. Nos moindres faits et gestes sont surveillés et analysés par des algorithmes, et ces données peuvent être renseignées soit directement par nous-mêmes, en effet, lorsqu'on crée un compte, on renseigne notre nom, prénom, adresse, etc., qui sont alors conservés par l'application, mais elles peuvent aussi être renseignées de manière indirecte, par exemple avec l'historique de nos recherches. Ces informations récoltées sont ensuite soigneusement conservées dans ce qu'on appelle les data centers, mais le processus ne s'arrête pas là. Si je prends l'exemple de Facebook, lorsque nous acceptons les conditions générales d'utilisation, nous acceptons, je cite, que Facebook utilise notre nom, photo de profil et information dans le cadre d'un contenu commercial sans nous verser de dédommagement. Et c'est à partir de ce moment que nous devenons donc une source d'économie pour cette application. En effet, Facebook va autoriser certaines entreprises qui souhaitent se faire connaître à accéder à cette banque de données. C'est le cas d'Alexis, un chef pâtissier, qui, comme vous allez l'entendre, utilise Facebook pour se faire de la publicité. L'audio que vous allez entendre est un extrait de l'émission Capital, diffusée sur la chaîne YouTube Documentaire Société. Et je vous laisse tout de suite avec cet audio.
Ce jour-là, Alexis a décidé de faire de la pub pour ses deux boutiques. Dans quelques minutes, certains internautes pourront découvrir ce petit panneau publicitaire sur leur page Facebook. Et pas n'importe quel internaute. Le jeune homme va pouvoir sélectionner ceux qui verront sa pub parmi le milliard d'abonnés du site. Et la méthode proposée a de quoi surprendre.
Ça, c'est l'étape cruciale. C'est le moment où on cible l'audience de la campagne de publicité.
Cibler l'audience, cela veut dire qu'Alexis ne va s'adresser qu'à un type très précis d'abonnés. Uniquement ceux qui ont une chance de devenir ses clients. Alors sur le site, il va faire ses courses et choisir ses cibles. Le jeune homme commence par déterminer un pays, la France. Mais surtout la ville où résident les abonnés Facebook qu'il a dans sa ligne de mire. Ce sera Paris et les communes alentours. Pas utile d'aller voir plus loin.
Alors Facebook propose aussi de nombreux autres critères qui n'ont pas été cités dans l'audio, comme par exemple la situation familiale ou encore les activités que pratique l'utilisateur. Mais cependant, ce géant du numérique n'est pas le seul. En effet, Google aussi propose un système appelé Google AdWords. Et avec ce dernier, les entreprises vont pouvoir choisir de diffuser leur publicité auprès de personnes qui auront cherché certains mots-clés qui correspondent à leurs produits. Donc finalement, dans le terme « économie de l'attention », on pourrait voir par là le fait d'économiser notre attention, de la préserver. Mais c'est finalement tout le contraire qui se produit avec les plateformes numériques.
Merci beaucoup Mathilde, merci pour ta partie. Alors, ce que tu viens de nous expliquer tout à la fin correspond au concept de capitalisme de surveillance, hein. On en a parlé dans le cours, c'est un concept proposé par Soshana Zuboff et que donc Christophe Mazzutti a retracé l'histoire dans son ouvrage Affaires privées. Alors, tu nous disais par exemple que nos moindres faits et gestes sont surveillés, ils sont analysés par des algorithmes, et puis dans l'autre sens tu nous parlais aussi d'économie de manipulation, donc ça va dans les deux sens, on est à la fois manipulé, influencé, et puis dans l'autre on est surveillé pour être ensuite analysé, bref, les deux processus s'alimentent l'un les autres. Est-ce que Est-ce que ce capitalisme de surveillance ne sert ou n'a servi qu'à des fins commerciales finalement, ou est-ce que est-ce que il y a eu d'autres usages de cela? Est-ce que tu as quelques pistes là-dessus?
Alors c'est vrai qu'il y a quelques points qu'on pourrait dire positifs à cette collecte de données. Ça peut servir pour tout ce qui est statistique, faire des sondages, tout ça, c'est important pour savoir comment notre société évolue, etc. Et puis là, stoppez-moi si je me trompe, mais il me semble que les données peuvent être collectées aussi pour lutter contre tout ce qui est le terrorisme, etc. Et à part ça, je n'ai pas d'autres idées des positifs de cette collecte de données.
Non, mais tu as proposé des pistes et je ne t'arrête pas, Mathieu. Non, c'est bien. Alors, on a une question, par exemple, d'Ella qui se demande comment se protéger de la surveillance. Alors, peut-être qu'on a vu quelques pistes là-dessus aussi. Est-ce que Mathilde, tu souhaites, ou pas toute seule Mathilde, c'est vrai, parce qu'il n'y a pas de raison que tu sois la seule à avoir de questions. Est-ce que vous avez d'autres pistes pour se protéger de cette surveillance-là?
Du coup, je vais commencer à présenter une réponse.
Très bien, Paula, c'est parfait.
À la toute fin. Donc,
ah non, c'est après. Oui.
c'est après Billy, mais on va peut-être...
Allons-y, c'est la dernière, vas-y. D'accord,
non,
ok.
Non, mais...
J'ai cru que tu y allais, mais non.
Non, mais j'allais dire, on ne va pas spoiler ma part.
Ah oui, tu ne vas pas spoiler. Ok, donc Paula, on te laissera donner quelques pistes pour échapper à la surveillance, justement. Tu as raison, et on va passer la main à Billy. Billy, tu vas nous parler du rapport entre addiction numérique et écologie mentale. Est-ce que tu es prêt, Billy?
Oui.
C'est parti.
Donc, on l'a vu, l'économie de l'attention, pardon, c'est l'utilisation de notre attention dans un objectif de profit. Vous avez pu écouter les techniques des différentes entreprises pour accrocher un peu l'attention des utilisateurs. Et là, je vais vous présenter plusieurs conséquences en fait, qui ont été observées à travers les différents utilisateurs de téléphones portables ou des réseaux en particulier. La première, c'est la nomophobie. Donc, c'est un terme qui a été inventé au cours d'une étude menée en février 2008 par la UK Post Office. C'est une contraction de no mobile phobia, donc la peur de ne pas avoir son téléphone mobile à portée de main. Donc, le terme peut paraître un peu fort de parler de phobie, mais elle désigne aujourd'hui vraiment une véritable anxiété lorsque le téléphone n'est pas à portée de main ou que la batterie est faible ou qu'il y a une mauvaise couverture réseau. Cette anxiété, elle représente quand même 53% des utilisateurs de téléphones mobiles selon une autre étude de UK Post Office en 2008 aussi. Donc on peut supposer que ce chiffre a drastiquement augmenté ces 10 dernières années, étant donné que voilà, l'utilisation du numérique a énormément pris d'ampleur. Et ce syndrome est particulièrement véhément chez les personnes qui ont un important besoin de ce sentiment de récompense qui est stimulé lors d'interactions sur les réseaux sociaux, de likes, etc. Un autre terme hyper pertinent serait le snubbing, donc la contraction de fun snubbing, du mot qu'on connaît un peu plus snobé, qui a été lancé en mai 2012, donc un peu plus tard. Le snubbing, c'est l'acte d'ignorer des personnes physiquement présentes en consultant son téléphone. Donc voilà, c'est quelque chose qui arrive beaucoup même autour de nous aujourd'hui. Donc elles préfèrent utiliser leur téléphone, regarder les réseaux sociaux plutôt que communiquer avec la personne physiquement présente. C'est un comportement antisocial qui s'est développé avec l'apparition évidemment du smartphone, des réseaux sociaux. Et ça peut aujourd'hui apparaître partout, donc au restaurant, dans un pique-nique, en soirée, n'importe où. Le système de récompense dont on a parlé tout à l'heure est... Le système de récompense des réseaux sociaux prend le dessus face à l'effort d'entreprendre une interaction. Et on a le cas même dans des relations très bien installées. On a une étude du coup, qui a été faite par un sondage Vodafone, repris par l'OBS, qui dit qu'aujourd'hui, une Européenne sur cinq consulte son téléphone, même pendant l'amour. Voilà, le snubbing est d'ailleurs un jeu sans fin, car la réaction souvent face à quelqu'un qui ne nous regarde pas et qui utilise son téléphone, c'est évidemment d'utiliser son téléphone à notre tour. Voilà. Donc on peut observer plusieurs fractures sociales, c'est notamment le cas entre les différentes générations, et donc on va voir tout de suite un extrait de micro-trottoir avec des étudiants pour voir si eux, dans leur entourage, ils ont conscience et ils observent justement un gap générationnel ou alors juste une fracture sociale due aux réseaux sociaux. Est-ce que tu as conscience d'un potentiel fossé générationnel creusé par le numérique entre toi et tes grands-parents, notamment par exemple par rapport au temps que pourrait passer si tu n'avais pas tout ce monde numérique?
Oui, clairement, je passe beaucoup plus de temps qu'eux sur mon téléphone quand je suis avec eux. Ça me paraît assez naturel, mais non, c'est vrai que j'en ai pas trop conscience.
En fait, la seule grand-mère que j'ai, elle est assez stricte et justement, elle veut faire attention à ce qu'on soit pas sur le téléphone quand on est en présence d'eux. Mais du coup, non. quand je passe pas trop de temps sur mon téléphone avec eux.
Bah, je pense que les moments que je passe sur mon téléphone, ce problème, je l'ai autant avec mes amis que je l'aurais avec mes grands-parents ou avec mes parents. Et en tout cas, c'est une question que je me pose à chaque fois que je suis sur mon tel. Je me dis, j'aurais pu le passer à discuter avec les gens au lieu d'être sur mon tel. Mais il est vrai que du coup, vu qu'avec les vieux, c'est, leur temps est plus compté, j'essaye de moins passer de temps parce que je les vois une semaine par an. Donc sur cette semaine, j'essaye de diminuer le temps de téléphone au max.
Donc t'en as conscience, quoi?
Ah oui, j'en ai conscience.
Okay.
Bah, en vrai, je m'en rends pas forcément compte parce que par exemple, mon père, il est beaucoup plus sur mon téléphone que moi. Une fois qu'on est tous les deux et on est tous les deux sur notre tel, non, c'est moi qui en ai marre et qui dit ok, viens, on arrête et on fait un truc ensemble et tout. Et lui, il est en mode je termine mon jeu, attends. Du coup, le fossé générationnel, il est plus inversé dans ce cas-là.
Voilà, donc on a pu observer en fait à travers ces cas, ces quatre témoignages qui sont plutôt marquants parce que du coup il n'y en a eu plus d'autres, mais ils étaient intéressants étant donné que ben, on peut voir que la fracture sociale est présente, mais pas forcément dans le sens où on l'attend et on a des prises de conscience différentes par rapport à tout ça. Donc vraiment, le plus important dans tout ça, c'est de se rendre compte des conséquences afin de pouvoir envisager d'adapter son comportement et l'éducation de ses proches. Donc voilà, c'est important de s'éduquer et à commencer par les enfants, donc se rendre compte des problèmes. En effet, un enfant doit grandir en développant ses cinq sens et en devenant acteur lui-même des interactions sociales qu'il peut avoir avec des objets non virtuels, des personnes réelles, etc. Les écrans empêcheraient le bon fonctionnement de toutes leurs capacités motrices et sensorielles parce que bah, évidemment, ils ont beaucoup moins d'interactions avec les autres sens que la vue et l'ouïe. Ça a aussi un impact important sur le sommeil et la réussite scolaire de l'enfant parce qu'il aura tendance à rester longtemps devant les écrans et donc se coucher bien plus tard qu'il ne le devrait. Et les enfants ont également tendance à préférer en fait, les écrans à n'importe quelle autre activité physique. Par conséquent, ils sont moins actifs et on peut observer beaucoup plus de sédentarité et de prise de poids chez les enfants. Les écrans donc, coupent les enfants de l'environnement qui les entoure, mais également des interactions sociales d'une attention conjointe. Coupent l'enfant d'une attention conjointe avec les personnes autour d'eux. L'attention conjointe, ça désigne juste le fait de porter son attention vers quelque chose en particulier avec quelqu'un, donc deux personnes qui ont une attention fixée vers la même chose. Donc ils ne s'intéressent plus aux autres individus, ils seraient quelque chose dans une sorte de bulle, donc ça rejoint ce que tout à l'heure on a pu dire avec le poisson rouge. Donc les réseaux sociaux sont bien plus captivants, et ce que produit l'industrie est fait pour attirer l'œil des utilisateurs. Aujourd'hui les enfants ont peut-être un référentiel moins développé, moins aiguisé, donc c'est plus difficile pour eux. Je tiens à rappeler évidemment qu'un dosage est nécessaire dans tout cela, étant donné que les écrans restent aujourd'hui aussi un excellent moyen de communiquer et de s'éduquer. C'est certaines activités qui sont à exclure ou à mieux doser. Donc on revient sur l'importance de la prise de conscience en fait, de tout ça. Il y a d'autres conséquences évidemment qui sont nuisibles de l'économie de l'attention, mais celles citées présentes sont les plus courantes. Et je tiens à rappeler que tous les individus sont évidemment concernés par justement ces problématiques, donc le manque de sommeil, l'incitation à consommer ou encore cette rupture sociale.
Merci Billy, merci pour cette partie-là. Alors en effet, ce que tu expliques, en particulier sur les enfants, eh bien, nous amène à nous poser la question, mais pour tout le monde, de notre rapport aussi à l'imagination, à l'alternance de moments où on va absorber beaucoup de choses avec des moments aussi de vide nécessaires pour créer, inventer, imaginer, et puis aussi peut-être se soigner par rapport aux phobies dont tu faisais une liste juste avant. Et donc tu as parlé d'attention conjointe, ouais. D'attention donc, avec d'autres personnes. Est-ce que par exemple, le renforcement, l'entraînement de cette attention conjointe serait une piste pour se sortir eh bien, de la nomophobie, par exemple, de
la certaines nomophobie, phobies. Oui.
Ouais. Est-ce que ça peut être une piste, justement, d'encourager davantage de moments comme ça d'attention conjointe pour eh bien, essayer de sortir les enfants, les adultes de la peur de manquer, de ce genre de choses-là? Ça pourrait être une piste peut-être pour répondre à la question de Sixtine, comment se libérer de notre addiction aux réseaux sociaux et se préserver de celle-ci. Voilà. Est-ce que ça pourrait être une piste pour faire ça?
Alors, pour juste les moyens de se libérer de cette addiction, on va en parler un peu plus tard.
Oui, toujours, c'est vrai.
Ça reste sur le sujet d'après. Mais par contre, par rapport à l'attention conjointe, on l'a abordé sur la thématique de l'éducation des enfants. Et donc, c'est très important parce qu'en fait, simplement, c'est plus jeune qu'on inculque les valeurs de, par exemple, partager des moments, donc stimuler le système de récompense une fois qu'on arrive à passer des moments avec des personnes qui sont physiquement présentes avec nous. Si on ne le fait pas, on a des enfants qui ont un système de récompense bien plus stimulé par les réseaux, par les jeux vidéo, etc. Et donc qui grandissent avec ça, et c'est bien plus difficile de s'en détacher plus tard. Donc c'est quelque chose qui est très important dans l'éducation, à savoir que c'est aussi une piste d'amélioration chez des personnes qui sont déjà bien installées dans leur bulle numérique, étant donné que, bah, en fait... c'est des choses qu'ils ne connaissent pas forcément quand une personne est vraiment dans sa bulle. Voilà, il n'arrive pas trop à sortir, il n'arrive pas trop à voir la plus-value du temps passé avec les gens par rapport à tout ce qu'il peut ressentir avec les réseaux sociaux, avec les jeux, avec des communications par réseaux sociaux. Enfin, je me répète. Mais globalement, c'est quelque chose qui est très intéressant à faire. C'est de l'éducation, en fait, donc que ce soit à tous les niveaux. Et aujourd'hui, c'est non pas juste une piste, mais réellement quelque chose de crucial dans la reconnexion des personnes avec la réalité.
OK, donc pour les enfants de tous âges, donc.
Bon. Les enfants de tous âges. Ouais,
merci Billy pour cette partie. Alors Paula, cette partie tant attendue, on y vient finalement. Tu vas nous expliquer, donc tu vas terminer cette intervention en nous expliquant comment la société peut... bien trouver des solutions, réagir collectivement face à l'addiction, etc. Bref, je te laisse la main. À toi, Paula.
Ouais, j'ai un peu la pression, mais... non, en vrai, on va commencer par dire du coup que la première solution pour réagir, c'est d'effectuer un changement chez les utilisateurs en eux-mêmes, donc chez nous, en soi. Donc, comme le disait Billy, le plus important avant de pouvoir agir, c'est la prise de conscience, c'est la première étape nécessaire. Et c'est les lanceurs d'alerte qui ont permis d'amorcer cette première étape et de mieux comprendre la nature et tous les mécanismes de manipulation que les plateformes peuvent opérer à l'aide d'interactions qui, pour nous, peuvent sembler anodines. Donc on peut par exemple parler d'Edward Snowden qui a publié des documents entraînant une prise de conscience planétaire sur les enjeux de la surveillance globale qui était opérée, et qui est toujours d'ailleurs opérée, tant par des plateformes privées que par des services d'État à l'aide de plateformes privées, entre autres. Ou encore Antonio Garcia Martinez qui a dénoncé la manière dont Facebook mentait sur ses stratégies d'influence et sur le nombre et l'ampleur des données utilisateurs recueillies par la firme. Et donc ce sont que des exemples, hein, bien sûr, parmi tant d'autres qui ont permis de révéler un peu la face cachée des GAFAM et de faire réaliser à la population l'impact de leur utilisation. Et du coup, comme l'a expliqué aussi Anna plus tôt, selon Olivier Hertzscheid, désolé si j'ai écorché le nom, dans Le Monde selon Zuckerberg, qui est un livre sorti en 2020, il faut faire en fait la démarche individuelle de mesurer et de comprendre toute cette toxicité des stratégies qui accompagnent les contenus qu'on voit, avec lesquels on interagit sur le web tous les jours pour la plupart d'entre nous, et qui participent à nous maintenir captifs, même si on n'en trouve plus l'intérêt, si on n'en trouve plus de plaisir, et de pouvoir ainsi limiter ces stratégies. Donc on est surtout de plus en plus impuissant face au fonctionnement de ces médias de masse qui sont devenus un peu incontrôlables, même par leurs propriétaires maintenant. Donc selon l'auteur, une des choses à faire pour ne pas le devenir totalement, c'est de ne pas sous-estimer leur impact, notamment sur notre capacité à se faire une opinion et donc de rester attentif au fait qu'ils peuvent nous manipuler et influer sur ce qu'on pense. Et du coup, garder et surtout mettre à jour cette prise de conscience qui nous permet de rester avertis et du coup garder une part de liberté. Donc on va du coup écouter un audio qui est un extrait d'une émission de radio qui a pour titre « Les révélations d'Edward Snowden ont-elles provoqué plus qu'une prise de conscience ?» et d'où, dans lequel on entend Snowden parler justement.
Et c'est encore un informaticien qui va agir, Edward Snowden, pour faire ses révélations. Dans ce livre « Mémoire vive » qui paraît aujourd'hui, son autobiographie, Edward Snowden revient sur son parcours d'informaticien, employé d'une société privée sous-traitant les données des services de renseignement américains. Il raconte comment il a mis à jour aussi cette cyber-surveillance des citoyens après le 11 septembre. Et il parle aujourd'hui encore d'un système de surveillance généralisé.
Tout ce que vous faites, tous ceux à qui vous parlez, tous ceux qui vous intéressent, tout ce que vous lisez de mille manières différentes, ces choses sont capturées. Et contrairement à ce qui se passait avant, depuis des décennies, elles sont désormais stockées pour toujours. Et puis il y a maintenant la capacité pour n'importe qui, une organisation criminelle, votre propre gouvernement, d'envoyer un code d'exploitation sur votre téléphone pour en prendre le contrôle. Ils peuvent voir ce que vous voyez sur votre smartphone. Vous avez payé pour l'avoir, mais c'est le hacker qui le possède.
Donc, dans un second temps, on va voir aussi une deuxième solution que pourrait être au fait de un peu réagir collectivement face à tout ça. Et la deuxième solution, c'est d'effectuer des changements dans le fonctionnement des technologies en elles-mêmes. Et donc, c'est dans un livret que des membres du Conseil national du numérique a publié cette année, qui s'appelle « Votre attention, s'il vous plaît, quel levier face à l'économie de l'attention ?». Donc, il propose en fait des nouvelles mesures pour adapter ces technologies à une attention plus collective et moins néfaste pour les utilisateurs, en apportant du coup des nouvelles règles. Je vais essayer d'en citer quelques-unes. Donc, la première serait la consécration d'un droit d'être informé sur les dispositifs de captation attentionnelle. Ensuite, mettre en place une mise sur pied d'une politique européenne permettant de lutter contre les risques qu'entraînent les modèles de l'économie de l'attention. Ensuite, reconnaître un droit de paramétrer les contenus et les émetteurs. Sanctionner des designs abusifs et trompeurs et renforcer le droit à la déconnexion. Ensuite, le Conseil propose également, aussi via l'éducation, d'informer les citoyens sur les risques de l'économie de l'attention, donc ce qui revient à cette prise de conscience dont on parlait auparavant. Donc, par exemple, il est recommandé dans l'article de sensibiliser les citoyens aux enjeux psychiques et sociaux de l'économie de l'attention, de renforcer l'éducation critique et pratique aux médias numériques dans le cadre de projets scolaires et extrascolaires, et aussi de missionner l'école pour concevoir et expérimenter des supports et des pratiques numériques cultivant l'attention profonde et l'attention conjointe que définissait Billy tout à l'heure. Donc, en conclusion, le Conseil souhaite soutenir des recherches permettant de concevoir des outils numériques qui ne soient pas fondés sur uniquement des automatismes algorithmiques et la captation des attentions qui est néfaste, comme on l'a vu tout le long de cette émission, mais qui laisse le champ ouvert pour l'interprétation, la réflexion et les relations sociales. Donc, ce ne sont que des propositions dont on n'a pas encore les résultats pour l'instant, mais dont on espère qu'ils seront, qu'ils seront positifs. Et du coup, comme le définissait Daphné au tout début, l'écologie de l'attention, au final, c'est un peu tous ces mécanismes, que ce soit de la prise de conscience aux nouvelles règles qu'on peut mettre en place pour aider à se libérer des mauvais côtés de l'économie de l'attention.
Merci beaucoup, Daphné. Merci à toi. Alors, en plus, c'est très très fort puisque tu as anticipé la question qui était prévue pour toi. Je voulais te demander, comme tu viens de nous rassurer sur le fait que, eh bien, on n'est pas démunis face à l'économie de l'attention. On a des choses à faire. Je voulais te demander en quelques mots l'essentiel de ce que serait donc l'écologie de l'attention. Tu l'as bien défini sur la fin. Et comme tout le monde est endormi sur Mattermost, puisque c'est la fin, je crois que on n'a pas d'autres questions puisque vous avez très bien tout résumé toutes les cinq ici. Donc, eh bien, je crois qu'on va s'arrêter là. Il est bientôt 18h30. C'est le temps de s'en aller. Mais bravo à vous cinq pour votre préparation, pour votre intervention. On pourra vous réécouter sur graphite.net en podcast et puis aussi sur l'instance PierreTube à Péri.tube, la chaîne WE1. Et puis voilà, merci encore une fois, merci à Graphite pour l'accueil de ce format d'émission, merci à toutes les étudiantes et tous les étudiants de WE1 pour votre implication dans cet exercice, et puis on vous souhaite un très bon été à Compiègne ou ailleurs, et à bientôt.
Merci.
Au revoir.
Upload UTC, l'université populaire du libre, ouverte, accessible et décentralisée à l'UTC. Avec les étudiants de WE01, encadrés par...